Bon, les amis, un drame vient de se passer. Vous vous souvenez que le principe de ce podcast, c'est pas des... C'est quoi déjà ? Pas de montage, pas de fréquence et pas de réécoute. Et ça implique un petit peu, pas forcément de préparation, pas de réécoute. Enfin, bref, qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est que j'ai lancé mon petit logiciel qui s'appelle Riverside. Je suis actuellement en vacances à Mykonos, comme un énorme beauf, je vous en parlerai juste après. Et ce putain d'internet a coupé. Heureusement, je parlais que depuis 4 minutes. Mais je crois que ça rompt la règle de la spontanéité. Donc, j'avais fait une petite présentation, je vous avais parlé de mes vacances, je vais pouvoir le refaire. Heureusement, ça n'a pas coupé au bout de 30 minutes. Donc du coup, je ne vais pas enregistrer avec Riverside, j'ai ouvert le dictaphone, avec probablement une qualité d'enregistrement qui sera encore plus médiocre. Et oui, c'est possible. Encore plus médiocre que les épisodes précédents. Mais bon, tose, hein. Écoutez, ça n'a pas l'air de vous déranger. D'ailleurs, ça me permet de vous parler de... vos comportements de grands fous, bande de malades. Vous savez qu'on est rentré dans le top 10 des podcasts français dans la catégorie affaires. Affaires qui est une très mauvaise traduction du mot business, hein, je trouve, en France. Mais bon, je sais pas ce que ça vaut d'ailleurs en termes de prestige. C'est pas si difficile que ça, parce que je vous disais la dernière fois, on avait fait quoi, 150 écoutes. On était dans le top, je sais pas combien là, 50. Là, on en est à 1000 quelque chose sur deux épisodes, 1074 et 825 personnes dans la taille du public. 192 abonnés Spotify, vous êtes des grands baisers. Donc non, franchement, je ne m'attendais pas à ça, surtout pas après deux épisodes. Et quand je vois que je charbonne à côté sur les Brutis Commerce et Enlève tes chaussures et qu'on n'est jamais rentré dans le top 10, je commence à me dire que la réussite d'un podcast, c'est surtout le concept. Et ensuite, merde, c'est quoi le truc ? Oui, la fréquence. Je pense qu'une des vraies raisons pour lesquelles le truc est monté dans les charts, parce qu'il y en a eu deux en deux jours. Donc voilà, c'est un truc de bourrin, ça me rassure. Faites des podcasts, les amis, et merci beaucoup de votre attention. C'est extrêmement bizarre pour moi de me dire que là, il y a 1074 personnes qui écoutaient moi qui sors un micro au hasard. Parce que là je vous décris, on a fait une soirée. Donc hier soir, ça fait trois jours que je suis à Mykonos avec une bande d'amis. Ça commence à être extrêmement physique et dur, à la fois pour le mental et pour les rotules. Donc ça veut dire que je commence vraiment à fatiguer. Donc je suis dans mon lit. Et heureusement, tant mieux, du coup ça me permet d'avoir le temps de vous faire un épisode avec la qualité intellectuelle qui en découlera, qui sera ce qu'elle est, mais je pense qu'il sera au niveau globalement des épisodes précédents. Et ça commence à être très très dur, ce voyage. Et pourquoi je vous disais ça ? Putain, j'ai déjà perdu le fil, c'est vraiment le bordel. Mais comment vous infligez ça ? Comment ? Mais allez regarder YouTube, j'écris des trucs, je les monte. J'ai une équipe, et regardez les Brutis Commerce, et regardez Enlève tes chaussures, il y a du travail, il n'y a pas de bug. Pourquoi vous écoutez ça ? Pourquoi il y a 1074 écoutes ? Alors que les Brutis Commerce n'avaient même pas 1074 écoutes par épisode. Je me pose, c'est vrai. Non, si ça fait un petit peu plus quand même. Alors, bon, de quoi est-ce que je vais commencer à vous parler ? Oui, quelles sont les raisons de ma fatigue ? Je ne sais pas si ça se ressent dans ma voix d'ailleurs, que je suis un peu fatigué, j'espère pas. Non, hier soir, je suis allé dans un endroit lunaire et une faille spatio-temporelle, type d'endroit dans lequel je n'ai jamais été, c'est le Scorpios Bar Club à Mykonos. Et je vais essayer de vous en faire un petit portrait pour que vous imaginiez à quoi ça ressemble. Donc, c'est un endroit qui est évidemment sublime pour regarder le coucher de soleil. Vous pouvez taper sur Internet en même temps. Donc, on est arrivé à une vingtaine. Et c'est probablement le lieu de ralliement, je l'ai découvert, de la jet set. C'est-à-dire que quand tu ouvres la carte, tu regardes pour te prendre une petite bouteille, un petit verre avec tes amis, et ben là, tu vois des bouteilles à 18 000 balles. Et pas des bouteilles de dingue. Hein. Par exemple, un Magnum, je crois que c'était ça, de Mouette, c'était 18 000. Et donc, non, ce n'est pas le nombre de calories, c'est le prix en euros. Et donc, j'ai découvert que ce genre de lieu existait, j'avais jamais mis les pieds, donc je l'ai vu vraiment ça comme une expérience sociale. Et figurez-vous que j'ai passé une excellente soirée, puisqu'on était un groupe de 20 personnes, ça nous a permis, chacun en vendant un rein, de pouvoir quand même passer une soirée là-bas, qu'on fera une seule fois dans nos vies probablement. Mais voilà, donc je découvre en fait, il y a un type de personne qui sort régulièrement dans ces endroits, et on m'a raconté quoi ? On m'a raconté qu'une table là-bas en été, donc en juillet, parce que là on est en juin, enfin en pleine saison août, pardon, c'est minimum 10 000 euros. Et qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à payer 15 000 euros supplémentaires juste pour en avoir une. Parce qu'il y a une bagarre, en fait. Entre les milliardaires, millionnaires, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'ils font, les gens-là. En tout cas, ils sont tous bien sapés. Putain, je suis déjà en train de m'égarer, vous en battez les couilles de Mykonos. Hein. On est d'accord ? Vous voulez connaître l'annonce de la structure de ce podcast ? Parce que j'ai pas mal de points. J'en ai encore une fois 14. J'ai encore une fois pas du tout parlé des 14. Je pense que vous en sélectionnez 5-6. Je pourrais pas vous parler une heure, je suis désolé. Il est midi 43. À 13h30, on part manger. Donc je pense que je vais faire entre 30 et 40 minutes pour avoir le temps de me préparer. Voilà, on va parler de quoi ? On va parler de la valeur des extrêmes. Pas forcément. Le bon mot, c'est pas clivant, mais c'est polarisant. Donc le fait d'être polarisé soit vers la polarité plus, soit vers la polarité négative, à quoi ça sert ? Ensuite, on va parler de la valeur des vices. Comment est-ce qu'on utilise les siens ? Comment est-ce qu'on utilise ceux des autres pour juger qui ils sont ? Après, on va voir comment driver son bonheur des bonnes choses et comment j'ai malheureusement eu la fâcheuse tendance à ne pas le faire et ce que j'ai appris de ce truc-là. On va ensuite se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire dire un truc intelligent, tout court. Puis, on va parler de bagarre, mon expérience de la confrontation physique, ce qu'elle m'a appris en entrepreneuriat et de manière plus générale. Et ensuite, je vais vous laisser avec un tout dernier point qui m'est venu, là, que je viens de noter, qui n'est pas du tout dans l'ordre chronologique, c'est le 14e, mais dont j'ai envie de vous parler. C'est, on va voir la différence, on va voir qu'on peut mettre le monde dans deux catégories. Quand une personne gagne 76 000 euros par an, et qu'une personne en soirée, par exemple, lui demande combien est-ce qu'elle gagne par an, il y a ceux qui disent « je gagne 75 000 » et ceux qui disent « je gagne 80 000 ». Et ça sépare le monde en deux types de personnes. Je regarde, j'ai reçu un petit message. 13h30, ok, c'est bon. C'est la date de ralliement. On commence tout de suite, je commence par me présenter, je m'appelle Théo. Je monte une boîte qui s'appelle Koudak, j'ai une chaîne YouTube et un podcast avec une qualité audio dégueulasse et une qualité intellectuelle encore plus dégueulasse. Ça s'appelle Road to 10 Million. Je documente la quête de mon agence vers les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça prend du temps. Donc du coup, j'ai le temps de me foutre dans mon lit et vous raconter mes galères et les trucs qui se passent bien aussi. Parce qu'il n'y a pas que des galères non plus, on ne va pas faire le mec. Alors, on commence tout de suite avec la valeur des extrêmes. Bon, le premier conseil que les gens donnent quand un créateur de contenu veut se lancer sur LinkedIn, c'est « sois clivant, super important, tu vas voir, blesse les gens, ça va plus, ça va faire se diffuser tes posts plus ». Ces gens-là ont raison, mais ils ont aussi tort. C'est-à-dire que ça fait de vous une caricature de vous-même, rapidement. Et il y a des gens sur LinkedIn qu'on connaît qui n'en sortent jamais et qui deviennent un petit peu des sketchs où on sait quand ils écrivent qu'ils écrivent plus pour dire des trucs intéressants, ils écrivent pour froisser une certaine partie de personnes. Ça, c'est de la merde. Donc, c'est la première chose. Mais l'extrême inverse, ça serait de se dire quoi ? Ça serait de dire, il faut que je sois lisse, je m'en fous de blesser les gens. Enfin non, je vais essayer de ne pas blesser les gens, juste dire ce que je pense. Ça n'est pas non plus souhaitable. Et en fait, je vous dis ça parce que je suis passé par les deux étapes. J'ai commencé sur LinkedIn en faisant comme tout le monde, en essayant de blesser des gens, en faisant des posts. Je gagne 10 000 euros par mois et je vous emmerde. Que je regrette. Je regrette. En vrai, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai compris que je voulais plus le faire. Mais je regrette parce que ça sert pas à grand chose. C'est pas forcément hyper authentique avec qui j'étais. Et j'ai eu une phase un peu plus récente d'ailleurs, je pense sur la dernière année, où je prenais moins de risques dans mes contenus. Vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, par exemple, c'était plus des interviews de personnes. Je faisais parler les autres et pas moi. J'étais moins, disons, à cheval sur mes convictions. Alors, c'est le fait de plein d'événements personnels dont je ne vous parlerai pas dans ce podcast aussi. Mais disons que j'ai fait preuve de moins de courage. Et pourquoi est-ce que je voulais vous parler de la valeur des extrêmes ? C'est parce que, en fait, moi, la raison pour laquelle j'avais un peu peur d'être très assertif sur mes croyances, c'est que je me dis que j'avais la possibilité d'avoir tort. Ce qui est en fait une grosse erreur. Parce que le but dans une aventure entrepreneuriale, c'est d'avoir tort le plus souvent possible. Parce que c'est le seul vecteur, il n'y a pas d'autre chemin vers le fait de découvrir la vérité ou un truc qui marche. Tu es obligé d'avoir tort beaucoup de fois. Et plus tu évites d'avoir tort, donc plus tu dis des trucs lisses sur lesquels on ne peut pas forcément être en désaccord avec toi ou même être d'accord avec toi, et ben moins tu reçois de feedback de la réalité. Et donc souvent quand vous écrivez des posts LinkedIn, vous savez, moi à chaque fois je sais qu'il y a 1000 milliards d'exceptions à ce que je suis en train de raconter. Et d'ailleurs c'est un test très intéressant que vous pouvez faire quand vous lisez des posts LinkedIn. Essayez de savoir si le créateur de contenu, quand il a écrit, il a essayé d'anticiper des objections de son audience. Plus il a essayé d'anticiper des objections de son audience, moins il est courageux dans sa démarche intellectuelle. Et je me rends compte, il y a peut-être des exceptions à ça aussi. Je suis en train de contre-démontrer mon théorème, parce qu'on s'en fout des exceptions. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions à ce que vous racontez que vous ne devez pas être extrême dans vos croyances, c'est-à-dire assumer fortement des choses. Parce que le meilleur truc qui puisse vous arriver, c'est qu'on ne soit pas d'accord avec vous, et que ça fasse évoluer votre système de pensée. Mais malheureusement, si vous ne prenez pas le risque de dire ce que vous pensez, et je dis bien dire ce que vous pensez, pas dire ce que vous pensez que, que votre audience, les trucs sur lesquels vous pensez que votre audience va réagir, c'est pas assez français. Putain, c'est vraiment très dur ce premier point, j'aurais dû terminer par ça. Oh la gueule de bois, enfer. Je sais même pas si vous avez compris ce que je vous raconte. Donc, je vais essayer de récapituler en une phrase. N'ayez pas peur d'être extrême. La question, c'est pas de savoir si vous avez raison. C'est que c'est la seule démarche pour arriver à la vérité. Voilà. Maintenant, parlons de la valeur des fils. J'ai un pote qui s'appelle Louis, qui me disait qu'il ne pouvait pas croire une personne qui n'avait pas de vice. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que je sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes dont vous avez l'impression qu'elles sont extrêmement lisses, parfaites et incroyables. Et c'est très très dur de savoir ce qu'elles font mal. Et en fait, je me suis rendu compte que ce type de personne-là, en fait, il y a un théorème à peu près général, c'est que tout le monde a des vices, ça peut être l'alcool, le sexe, la drogue, etc. Et les seuls trous du cul, c'est les gens qui essaient de faire croire aux autres qu'ils n'en ont pas. Donc ça, ça a deux implications. La première, c'est que je vous conseille de vraiment pas faire confiance aux gens qui n'ont pas de vice, parce qu'en fait, ils sont clairement dans une démarche de dissimulation. Si vous n'êtes pas capable de les... Évidemment, quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous n'allez pas voir ses vices marqués sur son front. Hein. Mais si vous connaissez une personne depuis quelques temps et que vous n'en avez toujours pas trouvé, de gros défauts, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que vous-même, vous devez être honnête avec vos vices. Quels sont les miens, maintenant ? Eh bien, je peux vous dire que j'ai un vice qui est la gratification immédiate. Je me rends compte dans toutes les périodes où j'ai été le moins performant dans ma vie, c'est ceux où j'ai toujours succombé à la gratification immédiate. Donc, ce que j'appelle les périodes Uber Eats. Donc, il m'est arrivé d'avoir des périodes de plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être pas plusieurs mois, mais deux ans, mois complets. Si, plusieurs mois, si. Où plus de 50% de mes repas étaient des Deliveroo. Et ça, tu t'en rends pas compte parce que tu sombres gentiment dedans. Et après, tu te rends compte que finalement, ça a un impact sur tout le reste de ta vie parce que tu deviens flemmard, tu es plus capable finalement de... des delays, la gratification. Je m'excuse pour cet anglicisme. C'est quoi la traduction ? Delay ? Délayer ? Je ne l'ai pas. Je vous aurais bien demandé de me corriger, mais malheureusement, vous ne pouvez pas interagir avec moi. Ça me fait penser que vous pouvez d'ailleurs me poser des questions sur Instagram. J'essaierai d'y répondre dans le prochain épisode du podcast. Ça sera avec plaisir pour créer un peu d'interaction. Et vous donner ce que vous voulez comme contenu, parce que là, j'écris des points dans mes notes. Et parfois, ce n'est pas intéressant. Donc, autant vous donner ce que vous voulez. Donc, savoir... En fait, bon, la démarche que je vous recommande, c'est simplement essayer de trouver le plus vite possible le vice des autres et être très à l'aise. Et, en fait, les trouver très vite et être très tolérant ensuite derrière. Et savoir lesquels vous tolérez ou vous tolérez pas. Moi, par exemple, un vice que je tolère chez les gens, c'est l'arrogance. L'arrogance, ça ne me dérange pas chez quelqu'un. Je trouve que c'est d'ailleurs une composante, un vice qui est très souvent présent chez les gens que j'admire. Donc, les gens très successful, ça vient avec. Mais je préfère l'arrogance que, par exemple, quelqu'un qui est violent. Et ça me ferait une très bonne transition avec la bagarre juste après. Et donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est d'être très honnête avec les vôtres et de ne pas essayer de vous mentir en mode « je suis parfait », les rejeter, vous dire « ah non, je ne devrais pas être comme ça », etc. Mais plutôt de les cantonner. Et je crois que c'est les Grecs qui appelaient ça la catharsis, c'est pour ça qu'ils allaient au théâtre. C'est-à-dire qu'ils allaient voir tous les péchés, qui étaient purgés dans une pièce de théâtre. Donc c'est là où, vous savez, les trucs avec Oedipe, là où il bute sa mère, enfin, il couche avec sa mère, il bute son père. Ils allaient voir des trucs qui étaient hyper hardcore à l'époque, parce que ça leur permettait de les voir se manifester sur la scène et pas dans leur vie. Ça s'appelle la catharsis, donc la purge. Je vous conseille de connaître vos vices, de leur laisser une petite place dans vos vies. Donc avoir des périodes où vous savez, ok, bah là, je veux quand même un petit Uber Eats, c'est votre vice, ou je vais mettre une tôle si jamais vous êtes, j'allais pas dire alcoolique, mais c'est un peu votre péché mignon. Mais ne pas essayer de les rejeter, parce qu'en fait, c'est comme ça, chasser le naturel, il revient au galop. C'est une phrase qui d'ailleurs est très discutable. Hein. Je vous conseille un super podcast de Charles Pépin d'ailleurs, qui s'appelle exactement comme ça, « Le naturel revient-il toujours au galop ?» dans lequel il donne des arguments pour et contre. Charles Pépin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le mec qui a le podcast Une philosophie pratique, des petits épisodes de 20 minutes sur des notions qui sont comme des dissertes de philo. Donc voilà, n'essayez pas forcément de... Enfin, voilà, le naturel, ça ne veut pas dire prenez vos vices et soyez un fils de pute, mais donnez-leur une petite part dans vos vies. Voilà, il y a une valeur dedans. C'est mon second point. Mon troisième point, c'est driver son bonheur des bonnes choses. Alors, cette notion me vient du fait que pendant longtemps, avec Kodak, j'ai drivé mon bonheur des chiffres qui allaient vers le haut, donc le chiffre d'affaires. Et en fait, en même temps que je vous en parle, je me rends compte que j'en ai peut-être parlé dans l'épisode précédent. J'en ai parlé, non ? Il me semble, ça me dit quelque chose. Putain, je sais plus. Bon, je la refais dans tous les cas, au pire, vous skipperez. Hein. Donc, driver son bonheur des bonnes choses, ça veut dire quoi? En fait, c'est tellement dur de faire du chiffre d'affaires quand tu lances une boîte, de faire grossir ton activité. Je vous dis, parce que j'ai eu une marque de vêtements avant sur lesquelles je n'ai pas fait un copec. Et donc, je connaissais cette frustration que quand tu as un truc qui marche, c'est tellement un shoot important de dopamine que tu deviens un petit peu accro à ce truc-là. Et tu as l'impression d'être heureux quand les chiffres montent. Et parfois, ça peut durer c'est des phases qui peuvent durer très longtemps. Moi, j'ai eu franchement un an et demi chez Kodak sur lequel il n'y a eu aucun accro. Quoi. On a fait 0 à 140 000, 150 000 avant de connaître un petit plateau. Par mois, je parle en chiffres. Et du coup, j'étais très heureux, en fait. J'étais très heureux parce que tout allait vers le haut. Et en fait, c'est quand la marée descend qu'on voit qui ne portait pas de maillot de bain, disait Warren Buffett. Et bien, c'est la même chose. Quand j'ai commencé à avoir des petits plateaux, je me suis rendu compte que mon estime de moi était en fait un peu plus fragile que ce que je pensais, ce qui est très corrélé à des facteurs extérieurs, donc le chiffre d'affaires. Et ça, c'est un piège dans lequel tombent tous les entrepreneurs. Je ne recommande pas d'ailleurs d'essayer de l'éviter hein, si vous lancez une boîte, etc. Foncez la tête baissée dedans, mais rappelez-vous que Tonton Théo vous a parlé de ce truc-là un moment dans un podcast pour vous dire que c'est normal et que vous allez devoir trouver d'autres façons de driver votre bonheur quand les chiffres vont aller un petit peu moins vite, parce qu'en fait, ces shoots de dopamine, les pourcentages de croissance que tu fais au début, tu ne les referas plus jamais. C'est très rare. Du moins, pas sur mon type de business qui est un business d'agence. Je ne vais pas faire des x5. La première année, on a fait x5. Enfin, du coup, la deuxième année, on a fait x5. C'est-à-dire que le MRR, en 12 mois, a fait x5. Donc, monthly recurring revenue. Ça, c'est des trucs que je ne pourrais pas retrouver. Hein. Sinon, ça veut dire que si je fais ça sur 3 ans, je ne sais pas comment ça fait. J'aurais peut-être déjà une boîte à 50 millions. Évidemment, ce n'est pas possible sur des business très humains comme les nôtres. Donc, vous allez devoir apprendre à driver votre bonheur d'autres choses. Et donc là, moi, je peux vous dire un petit peu comment est-ce que j'ai répondu à cette problématique-là. Vous allez pouvoir driver votre bonheur d'une façon un peu plus stoïque, au sens donc stoïciste. Stoïciste, ça se dit? Non, issu du courant de pensée, le stoïcisme, qui est d'ailleurs très en vogue chez tous les créateurs de contenu sur YouTube, j'ai un peu le seum, hein, parce que honnêtement, c'est une notion que j'ai découvert il y a pas mal de temps, et quand j'ai vu que tous les créateurs de contenu s'en étaient emparés, j'ai commencé à me dire, ah putain, en fait, ça se trouve, c'est de la merde. Donc ça m'embête. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup de contre-exemples sur cette façon de vivre sa vie. C'est-à-dire qu'essayer de driver votre bonheur de choses que vous contrôlez. Donc au lieu de vous dire « je serai heureux quand j'atteindrai 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros par an », ce qui était un petit peu mon cas, eh bien soyez heureux quand vous avez rempli vos objectifs trimestriels. Et donc après, ça vous ouvre une autre discipline, c'est comment bien définir des objectifs. Donc nous, on a des OKR, et donc le seul truc que je traque avec toute l'équipe toutes les deux semaines, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est les KR. Est-ce qu'on a coché des trucs? Est-ce qu'on a fait les trucs qu'on a dit qu'on allait faire? Et là, je me dis, et c'est ça qui a un boost énorme sur la confiance en soi. C'est comme la différence entre l'entraînement et la compétition. J'avais un coach de basket à HEC qui disait « un joueur joue comme il s'entraîne », une citation très conne, mais en fait très véridique. Et c'est un autre truc que j'ai redécouvert dans une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Ciblo, qui fait de la course. De l'athlétisme, je crois qu'il fait je sais même pas c'est quoi sa discipline, il doit faire du 10 km ou du steeple, bref, un mec qui court très bien et qui disait bon là celui qui va gagner cette compétition c'est celui qui se sera le mieux entraîné. Et ça veut dire que c'est la même chose dans tous les sports, c'est à dire que ce qui te donne confiance en toi c'est pas de gagner les compétitions, c'est d'avoir fait ton entraînement comme t'as dit que t'allais faire. Et ça je l'ai découvert aussi au poker, quand j'ai eu ma phase de joueur de poker professionnel, le jeu de poker c'est un jeu sur lequel tu as une variance qui est gigantesque. Ça veut dire que tu peux jouer ton meilleur jeu et quand même te faire enculer. Et ça, c'est très, très dur mentalement. Et donc, tu ne peux pas forcément driver ton estime de toi ou alors l'évaluation de tes compétences en poker à ton gain court terme. Donc, tu es obligé de te fier à ce que tu peux contrôler, qui est-ce que j'ai bien travaillé mon jeu, est-ce que j'ai revu mes coups, est-ce que j'ai l'impression d'avoir bien joué. Et donc, il faut essayer de trouver une variante de ça à appliquer dans son business pour pouvoir tenir le long terme, parce que c'est toujours des marathons. On commence à l'allure d'un sprint, toujours. Et tout le monde commence à l'allure d'un sprint. Et après, on découvre... en fait, il faut courir très longtemps et que tu es un petit peu cramé. Et ce genre de mentalité de driver son bonheur des chiffres, ça crame. Et en fait, le meilleur moyen d'avoir des chiffres qui vont vers le haut, c'est de ne pas driver son bonheur des chiffres, de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, le court terme, parce que vous allez laisser tous les concurrents se cramer, devenir ouf, quand leur boîte ne grossit pas. Parce qu'évidemment, la croissance et le chiffre d'affaires, c'est un truc sur lequel vous avez une prise qui est en fait très limitée quand on y réfléchit. Demain, vous avez un crack boursier ou disons que votre secteur il se rétracte. Donc, moi, ça a été le cas sur l'e-commerce, sur la publicité en ligne. C'est pas un secteur qui est en boom actuellement. Bien, vous pouvez faire exactement la même chose qu'il y a 3 mois, mais juste les annonceurs dépensent moins. Et bien, vous faites autant de pourcentage de chiffre d'affaires en moins. Et vous n'avez pas changé grand-chose. Et donc là, la grosse connerie, ça serait de te dire, bah, je suis une grosse merde, mon chiffre d'affaires, il grossit pas. Donc, devenez stoïque. Je vous le recommande, mais ne devenez pas stoïque avant d'avoir besoin de le devenir. Donc, prenez l'euphorie des premiers moments, parce que ça reste d'excellents souvenirs. Et ensuite, rappelez-vous que ce qui vous a amené jusqu'ici ne vous amènera pas jusqu'à là-bas. Il va falloir développer une mentalité plus saine et plus long terme dans votre rapport au travail. Voilà pour ce troisième point. Point numéro 4. Qu'est-ce que ça veut dire dire un truc intelligent ? Le feedback que j'ai le plus eu sur mes contenus, c'est « Ah, c'est smart !» Et donc c'est un truc qui m'a donné beaucoup de fierté au début, au point que ça en est devenu un petit peu un objectif. À chaque fois que j'ouvrais mon clavier pour écrire, ou un script de vidéo, j'essayais de me dire « Il faut que je dise un truc intelligent. » Et après, du coup, j'ai écrit des trucs qui n'étaient pas très intelligents, ou des trucs que j'essayais de rendre trop intelligents, du coup, qui n'étaient plus intelligibles, cette fois-ci. Et du coup, j'ai commencé à essayer d'isoler un petit peu des raisons, des facteurs qui font que quelque chose est perçu comme intelligent. Et j'en arrive de plus en plus à me dire que ça n'a en fait pas grand-chose à voir avec la qualité d'un propos. Parce que déjà, c'est très compliqué de qualifier quelqu'un d'intelligent. Je trouve que l'intelligence, c'est très situationnel et très pratique. C'est-à-dire que tu peux être intelligent dans un domaine, tu peux être très intelligent en maths, et pas du tout intelligent en philosophie. Donc j'aime beaucoup plus accoler derrière le mot intelligence, l'intelligence pratique d'un domaine. C'était mon premier point. Et ensuite, voilà, oui, parce que l'intelligence, c'est avant tout situationnel. C'est-à-dire que tu peux dire un truc... Quand quelqu'un te pose une question, tu peux dire un truc très intelligent, si tu ne réponds pas à la question, en fait, finalement, ce que tu dis n'est pas intelligent. Même si c'est issu d'une réflexion complexe, etc., blablabla. Quand bien même, ça serait la définition de l'intelligence. Donc, pour moi... Être intelligent, déjà, c'est développer une expertise pratique sur un domaine en particulier. Donc, c'est avant tout être intelligent dans quelque chose. Et ensuite, c'est être intelligent pour quelqu'un. Donc, c'est toujours une personne qui va écouter ton discours et ton travail. La personne la plus intelligente, c'est pas celle qui raconte les trucs les plus compliqués. Et d'ailleurs, on le voit sur n'importe quel scientifique, hein, c'est toujours ce dont on se rappelle dans l'histoire. C'est pas ceux qui ont raconté des trucs hyper complexes, c'est ceux qui ont réussi à simplifier des trucs super complexes. Et donc... En fait, c'est finalement ceux qui ont fait quoi ? Ceux qui ont le mieux répondu à des questions que la plèbe, donc nous, se posait. Donc le maximum de personnes se posaient. C'est ces gens-là dont on se rappelle. Donc les Einstein, etc. Des gens qui sont partis de trucs hyper complexes pour arriver à des équations très simples, E égale MC2, qui sont brillantes et qui sont intelligibles par à peu près n'importe qui. Donc, si vous voulez dire quelque chose d'intelligent, commencez par faire attention à votre interlocuteur. Vous demandez si vous... Enfin, ne pas hésiter à poser de nouvelles questions pour essayer de comprendre un problème. Et ensuite, vous pourrez vous permettre d'être intelligent en quelques mots. Voilà, je pense que ça vaut comme réflexion. Je ne sais pas non plus si c'est intelligent comme réflexion. Et je m'en branle. Voilà. On arrive au sujet de la bagarre. La bagarre. Alors ceux qui me suivent, depuis longtemps, j'allais dire sur Instagram, non, mais j'en parle pas beaucoup sur Instagram. Peut-être que certains le savent. Je suis un fervent pratiquant de sport de combat. J'ai commencé par la boxe anglaise pendant mes études à HEC, puis le MMA, dont j'ai une pratique très sporadique. Ça veut dire que je ne suis pas allé depuis un mois, là, par exemple. Mais je me considère quand même comme un pratiquant d'MMA, j'adore ça. Et j'ai appris pas mal de choses avec ces sports de confrontation. Notamment parce que j'ai grandi à Versailles, et donc Versailles, c'est une ville qui a un lot de caractéristiques très précises, à savoir que c'est un petit peu c'est pas les bourgeois, c'est les nobles. C'est-à-dire c'est les gens qui cherchent à cacher leur richesse. Donc des gens très riches, qui ont des gros postes dans plein de boîtes, dans plein de grosses boîtes, mais qui sont effrayés à l'idée qu'on découvre qu'ils sont riches. Ils ont peur, c'est des gens qui se cachent. Ce qui fait que c'est des gens qui sont, de manière générale, un peu moins flashy que la bourgeoisie. Donc j'ai des potes dans les deux catégories, donc je les juge avec amour, mais c'est ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans le 16e, etc., que j'adore, hein, j'habite juste à côté. Donc c'est des gens qui... Pourquoi est-ce que je vous parle de ça et quel rapport avec la bagarre ? C'est juste que moi, j'ai reçu une éducation. J'ai pas grandi dans une famille qui a été extrêmement riche. J'avais deux parents en cadre, donc j'ai jamais manqué de rien. Mais je me suis jamais senti super riche. Alors qu'on pouvait faire des trucs incroyables. Hein. Moi, j'ai un père qui a vendu une boîte, mais quand j'avais 20 ans, quoi, 21 ans, j'avais déjà intégré mon école de commerce. Donc j'ai pas forcément grandi avec ce genre de capital. Et donc j'ai reçu une éducation à la Versaillaise, c'est-à-dire anti-confrontation. Moi, on m'a appris, ma mère me disait toujours, s'il y a un problème, quelqu'un qui t'embête, tu l'ignores. Alors, ce genre de stratégie, ça marche pour pas se faire casser la gueule peut-être sur le court terme, mais ça marche pas pour son estime de soi. Ma maman, elle s'endormait pas le soir quand il y a un mec qui t'a manqué de respect et que t'as rien fait. Donc j'ai grandi avec ça, j'ai esquivé les conflits toujours dans ma vie, et ce dont je vous parlais avant, là, sur la valeur des extrêmes, je suis passé d'un extrême à l'autre. Je suis passé, quand j'ai découvert la boxe en école de commerce, à peut-être un phénomène que les pratiquants de sport de combat ont dû découvrir quand tu commences un sport, et tu passes dans cette zone où t'es capable de casser la gueule à un mec pas entraîné, mais pas encore à des gens entraînés, et qui du coup te fait un peu pousser des couilles, où tu te dis, si un mec qui m'embrouille en fait, je sais que je peux lui casser la gueule. Et donc j'ai un petit peu abusé pendant quelques années de ma jeunesse, donc principalement mes années école de commerce, de ce truc-là. Et donc comme je faisais beaucoup de soirées, j'étais fréquemment amené à avoir des gens avec une attitude conflictuelle, et j'appliquais beaucoup la maxime, si tu sais que ça va partir en couille, mets la première patate. Ce qui est un petit peu idiot avec le recul, parce que bon, vous allez voir, j'ai un petit peu changé d'avis sur ce truc-là. Et donc je suis passé d'un extrême à l'autre, à celui qui se confronte jamais, à celui qui se confronte tout le temps. Ce qui n'est pas non plus une attitude souhaitable. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que je pense qu'il y a de la valeur à tirer dans les deux. Il y a de la valeur dans l'esquive de la confrontation, parce que ça t'apprend le dialogue, à discuter, à ne pas driver ton estime de toi d'un trou du cul qui t'a manqué de respect ou qui t'a traité de grosse merde. Et ensuite, c'est à être dans l'autre extrême, c'est à être prêt à ce que les choses partent en couille, à être prêt au conflit, mais à le refuser. Et vous le remarquez toujours chez les gens. Moi, les gens les plus entraînés de ma salle de MMA, c'est pas des gens qui sont violents. C'est pas des gens qui font les mecs, c'est des gens qui veulent pas se battre. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent te tuer, c'est pas drôle pour eux. Et donc je pense qu'il y a, en fait, il faut réussir à passer par les deux étapes. Et pour éviter à tout prix d'avoir... parce qu'en fait, putain, je suis vraiment décousu, j'ai envie de vous parler juste d'une notion, c'est à la différence entre les gens pacifiques et les gens inoffensifs. Ça, c'était un coach de boxe thaï en Australie qui disait ça. Il disait, t'es pas pacifique, t'es inoffensif. Pour parler des gens qui savent pas se battre et qui disent, non, mais moi, je me bats pas, je suis un mec pacifique, etc. En fait, connard, t'es pas crédible, tu vois. Genre, t'es pas un mec pacifique, t'es pacifique par dépit, en fait. Tu ne sais pas te battre, tu ne connais pas la confrontation, donc tu serais pas capable de faire ça. Tu ne l'as pas démontré, et donc finalement, c'est lâche, ce que tu dis. T'es pas pacifique, tu n'as pas fait un choix conscient, tu l'as subi. C'est comme les gens gentils, hein, la plupart des gens qui sont gentils, ils sont pas gentils parce qu'ils ont envie d'être gentils, ils sont gentils parce qu'ils sont pas capables d'être méchants. Et donc il faut évidemment savoir jouir des deux pour avoir une stratégie optimale, comme on dirait au poker, donc inexploitable. Ça veut dire que t'es capable de faire les deux. On sait jamais si t'es en bluff ou si t'es en value, pour ceux qui connaissent le poker. C'est exactement la même chose avec la confrontation et le pacifisme. Donc ce que je vous recommande, c'est Jordan Peterson qui en parlait aussi beaucoup de ça, c'est d'être capable d'être un monstre. C'est-à-dire de savoir que parfois il faut avoir recours au conflit. Pas forcément à la violence physique, dont mon avis sur la question est arrivé au fait que je suis convaincu qu'il n'y a aucune raison de se battre si ce n'est quand vous êtes menacé. Donc vous pouvez mettre votre niveau de menace là où vous voulez. Pour certains, c'est se faire insulter, pour certains, c'est se faire malmener physiquement. Vous choisissez, vous réglez votre curseur. Il y a vraiment, en fait, un truc dont les gens ne parlent pas, c'est le sentiment après cette battue. Celui où tu t'es pété la main. Moi aujourd'hui, j'ai des cicatrices sur la main droite, et donc j'ai mal au doigt depuis 5 ans parce que je me suis ouvert les phalanges. J'en ai plein. Et ce sont des souvenirs de ne te bats pas. En fait, tu es un idiot. Tu finis à l'hôpital. Et d'ailleurs, les infirmiers ont une expression pour les gens qui se pètent la phalange extérieure du poing, ça s'appelle la fracture du connard. Donc, Dieu merci, je ne suis jamais pété la phalange extérieure. La fracture du connard, c'est quoi? C'est le mec qui ne sait pas se battre et qui frappe quelqu'un et qui ne sait pas verrouiller son poing, et donc il se pète la phalange extérieure. Et souvent, c'est une caractéristique d'énervé en soirée. Donc, ce que tu ne vois pas, en fait, c'est quand tu as fait mal à quelqu'un, tu te rends compte qu'il peut se passer tellement de merde. Donc, le mec, tu le tapes, il tombe, il se tape la tête, il crève ou il est handicapé, juste pour une patate parce qu'un mec t'a manqué de respect, tu peux questionner l'efficacité. Toi-même, tu peux te blesser, tu peux te faire attraper par les flics, parce que je vous rappelle, vous n'avez pas le droit de taper quelqu'un. Enfin, si un flic qui vous voit en train de taper quelqu'un, il vous arrête, il vous met en garde à vue. Donc, faut pas oublier ça. C'est une pratique qui n'est pas légale. Et donc, finalement, t'as pas vraiment beaucoup de façons de justifier de la violence physique. C'est précisément pour ça qu'il faut savoir en faire preuve, disons. Il faut savoir aussi qu'il ne faut jamais l'utiliser. Et je trouve ça très stylé, c'est comme la bombe nucléaire. C'est-à-dire que tu as tous les pays qui ont la bombe nucléaire, ils savent qu'ils peuvent l'utiliser. Tu as un pays qui l'a utilisé une fois et qui a montré à tout le monde ce que ça faisait quand ça se passait et qui a donné envie à plus personne de l'utiliser. Et, c'est ce qu'on... et du coup, ça crée la paix nucléaire. Ça me fait penser à des parallèles, je trouve ça très stylé ça. Enfin, pas les bombes nucléaires, hein. C'est, évidemment, c'est horrible et c'est un truc qui peut nous mener à notre perte. Mais c'est comme quand tu as une relation business dans laquelle tu fais pas de contrat. Tu sais que les deux parties peuvent se niquer l'un l'autre, mais tu dis écoute, je te laisse, tu as la possibilité de me niquer, j'ai la possibilité de te niquer, mais on va choisir d'avoir une relation honnête et de pas tirer l'un sur l'autre. Donc c'est un truc qu'il faut pas faire avec tout le monde, mais c'est un truc qui marche bien par exemple avec les associés au démarrage. Et souvent, les gens qui vont dire « Ouais, fais des contrats », c'est les gens qui se sont fait niquer au début. Et en fait, quand tu es avec quelqu'un de confiance, pendant un certain temps au démarrage, ne va pas te ralentir à essayer de foutre de la paperasse entre toi et lui. Souvent, s'il y a un problème dès le démarrage, tu gagnes plus sur le long terme en le découvrant, en découvrant qu'une personne peut te planter et trahir ce contrat, qu'en te protégeant avec un bout de papier. Moi, c'est aussi pour ça que j'adore le système du remote. Le remote, hein, c'est l'équivalent tu mets un steak sur une table. D'un côté de la table il y a ton employé, de l'autre c'est toi, tu lui files un grand couteau de cuisine et tu lui fais bon tiens je te fais ce couteau, soit tu peux couper le steak et filer à manger à tout le monde, soit tu peux me planter dans le dos et tu regardes au bout de 3 mois s'il te plante dans le dos ou s'il a coupé le steak. Et donc ça, en fait c'est un révélateur le remote. Bref, je m'égare, il est 13h09, je vais vous parler d'un dernier point ensuite, je vais aller manger. Donc alors ouais, j'étais un petit peu mystérieux avec ce point de est-ce que 76 ça fait 75 ou est-ce que ça fait 80. Il y a énormément de valeur dans les arrondis et dans comment est-ce que les personnes vont choisir de se présenter par rapport à la réalité. Oussama, il disait quand il faisait des conférences que n'importe quelle start-up devait avoir une feuille, donc recto-verso, avec sur le recto, donc ce que le locuteur voit, la vérité, et au verso, ce qu'il faut présenter au monde extérieur. Avec mon expérience personnelle, je peux vous dire que toutes les fois où j'ai essayé de grossir la réalité, donc cette situation où, disons, je faisais 76 000 euros par mois, je disais à tout le monde, ouais, bah, j'ai une boîte, ça fait 80 000 euros par mois, c'est des trucs qui sont anodins. C'est à 4 000 euros d'écart. Mais ça dit comment est-ce qu'une personne se comporte par rapport à la présentation de ses chiffres. Est-ce qu'elle sent qu'elle a besoin de compenser, donc de se présenter comme plus beau qu'elle l'est vraiment, ou de se sous-vendre, donc de dire, bon, j'ai une boîte qui fait 75 000 euros par mois. Et en fait, moi, je n'arrive à être pote, j'ai remarqué, qu'avec les gens qui sont dans la case 75 000. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas besoin de flex, de se présenter comme plus beaux qu'ils ne sont vraiment. Et ça, c'est un truc qui est aussi très lié à la façon dont tu rends service aux agences. C'est qu'à chaque fois que tu essaies de faire genre que ton 76 est un 80, et bien en fait, le client, il va attendre un 80 derrière. Et donc finalement, tu as beaucoup plus de bénéfices à sous-promettre, donc à dire, ah, je vais délier, en fait, je fais 75, et la personne découvre qu'en fait, tu lui donnes 76, que à faire l'inverse, à essayer de te survendre. Et donc la façon de le traduire de façon concrète, beaucoup de fois façon, c'est pendant le process de vente avec ton client, va pas essayer de vendre des résultats sur la lune, dis-lui il va se passer ça, ça, ça et ça, et passe du temps à essayer de convaincre, expliquer ta méthode, etc. Et ensuite, tu surdélivres, tu t'en gardes un petit peu sous le pied pour donner plus. Et là, tu as un client qui reste avec toi sur le long terme, parce que les agences, c'est un business de rétention, pas un business d'acquisition. Et donc, je vous conseille, si jamais vous... Enfin, de vous poser la question de comment est-ce que vous auriez présenté ces résultats quand vous gagnez 9000 euros par mois. Est-ce que vous dites je gagne 10 000 euros par mois? Ou est-ce que vous dites... j'en gagne 9 ou j'en gagne 8. Là, est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous la sous-vendez? Est-ce que vous la vendez? Est-ce que vous dites exactement ce que c'est? Et ça vous explique comment est-ce que vous êtes dans votre rapport aux autres. C'est un facteur très anodin. Donc questionnez-vous, il n'y a pas forcément de meilleure solution. J'ai l'impression que l'exercice de la start-up, c'est d'ailleurs un peu pour ça que ça me met mal à l'aise, c'est que tout le monde ment sur les chiffres. C'est un truc que j'ai découvert, ça d'ailleurs. Je ne comprenais pas. Je pense que Kodak est probablement la seule boîte qui dit la vérité sur les chiffres. Hein. J'ai à ce jour jamais menti. Sur les chiffres, et d'ailleurs j'annonce même parfois en dessous dans les RTTM, pas parce que je fais exprès mais parce que on n'a pas fini la compta souvent quand je tourne l'épisode. Donc ouais, voilà, j'ai l'impression que les startups c'est aussi beaucoup un travail de grossir, enfin faire le pan là, développer j'allais dire sortir la queue, mais c'est probablement pas la bonne expression. Je vous imaginez l'image que je voulais vous mettre en tête, c'est le pan qui avec sa queue sortie. Ouais, non, bon, on abandonne cette métaphore. Mais bon, bref, donc sachez-le aussi quand vous lisez des chiffres sur LinkedIn, etc., d'une startup qui soit lève des fonds, soit annonce des trucs, des chiffres d'affaires, demandez-vous quels sont les incentives. Est-ce qu'elle parle à ses clients? Est-ce qu'elle parle aux futurs investisseurs? À qui? Et à l'inverse, j'ai découvert aussi qu'il y avait des boîtes qui sous-vendaient, pas beaucoup, qui sous-vendaient leurs chiffres pour faire genre que, bah, en fait, c'était pas un bon business et avoir moins de concurrence. Je crois que ça a été le cas de Google, il me semble. J'ai un pote qui m'avait raconté qu'à l'époque, ils avaient une personne de l'équipe qui achetait des serveurs en son nom personnel pour éviter que tout le monde voit qu'en fait, ils achetaient énormément de serveurs et donc il y avait énormément de requêtes internet. Donc, c'était un excellent business. Et je crois qu'à l'IPO, tout le monde pensait qu'ils faisaient genre 200 millions de revenus ou je sais pas quoi. Et en fait, ils faisaient genre 1,5 milliard. C'est probablement une anecdote approximative qui est vraie dans l'idée, probablement pas avec les bons chiffres. Hein. Mais voilà, ça va dans les deux sens, mais on est souvent plus du côté des gens qui flexent, hein, qui se présentent comme plus intelligents, plus successful qu'ils ne le sont vraiment. Donc prenez les trucs avec des pincettes. LinkedIn, c'est pas la vraie vie. C'était le sujet du premier épisode. Voilà. Bon, les amis, il est 13h13. Il est 35. J'ai vraiment l'impression d'avoir divagué dans cet épisode. Je sais pas si c'était intéressant ce que je racontais. Vous me direz par message sur Instagram. Posez-moi vos questions d'ailleurs si vous avez des questions business, etc. Je verrai s'il y en a sur lesquelles j'ai des réponses intéressantes à vous partager. Et Inch'Allah, c'est vous qui alimenterez mes prochains épisodes. Je vais vous embrasser et vous donner rendez-vous dans un prochain épisode de Road to 10 Million, le podcast en roue libre.